Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, et vous savez que nous sommes 4 mois. 4 mois exactement après les élections législatives en Irak. Le Parlement irakien vient d'élire un président samedi dernier, ce qui ouvre la voie à l'élection du gouvernement. Il pourrait être aussi plus favorable à l'Iran, on voit ça avec vous Adel Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes sociologue, directeur général du Kurdistan Center for Sociology, chercheur associé à l'IFRI et EHESS. Alors, l'Irak traversé par une double crise depuis le début de l'été, le grand retour de la question sociale et une rivalité États-Unis-Iran de moins en moins cachée. Ce choix du Parlement est donc à double sens. C'est une première pierre pour stabiliser les institutions vacillantes, mettre fin aussi à la crise de Bassora, là où le gouvernement Abadi et le pouvoir central de Bagdad dans l'ensemble sont fragilisés face à la colère de la population qui manifeste depuis début juillet, excédée par la misère et l'abandon public, mais aussi l'annonce d'un gouvernement, si elle a temporairement ramené le calme, c'est une pierre iranienne, il faut le dire, puisque précisément les élections ont vu la victoire d'une coalition chiite plus franchement pro-Iran, l'Iran toujours très mal perçu à Bassora justement, le consulat a été brûlé, alors l'Irak divisé, écartelé entre ces deux parrains, avec une équation qui paraît assez simple et compliquée. L'Irak chiite a besoin de l'Iran, mais la présence iranienne bouscule la vie politique irakienne et les plans américains, sans parler des Kurdes. Alors, quelle marge de manœuvre pour tous ces acteurs ? Un point sur le vote du Parlement, celui qui a été élu président, Mohamed Al-Alboussi, un jeune de 37 ans, plus jeune président, et a une grosse majorité de voix. Qu'est-ce que ça signifie ? 169 voix sur 298.
Et ça signifie tout simplement la première victoire iranienne après les élections de mai 2018 en Irak, le premier échec des États-Unis d'Amérique. Il reste l'élection du président de la République et du premier ministre. A priori, le président de la République, ce sera encore une fois un pro-iranien parce que tout simplement, ça revient aux Kurdes et parmi les Kurdes, ça revient au parti, l'Union patriotique du Kurdistan, autrement dit, le parti politique pro-iranien qui domine le sud du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan et est traditionnellement allié stratégique de la République islamique de l'Iran. Et donc le président qui vient de ce parti politique sera un pro par définition iranien. Donc vous avez déjà un président de l'Assemblée nationale pro-iranien. Après, il y aura un président de la République pro-iranien. Il reste le poste du Premier ministre. Et le nom de Abdel Mahdi, un homme juste au milieu, un homme modéré, qui a de très bonnes relations à la fois avec Téhéran et Washington et même l'Arabie Saoudite. Il est le favori à ce moment-là. Autrement dit, l'Iran domine à la perfection les rapports de force dans le champ politique irakien.
Alors ça, c'est le lien, on est entré dans le vif du sujet directement. Peut-être un mot du tableau électoral, post-électoral quand même. Ces deux coalitions chiites, celle de Moqtada Sadr et de Hadi Al-Ameri qui dirigeaient les milices du Hashd al-Shaabi, donc elles représentent des milices fortes qu'on a dites pro-Iran, mais elles sont aussi venues avec un mouvement de revendication sociale très fort depuis 2015. Quel lien est-ce que vous faites avec la crise de Bassora, justement ?
Alors, écoutez, avant la crise de Bassora, avant le mouvement social, ce que j'appelle vraiment un mouvement social à Bassora, ce n'est pas qu'à Bassora, c'est dans le sud du pays, mais Bassora
oui,
symbolise...
Ce n'est pas les seuls mouvements sociaux, en effet.
Voilà, absolument. Avant ce mouvement, on avait deux camps post-électoraux. Un camp pro-iranien qui était constitué de la fraction de Maliki et de Hamdi, qui symbolisait le camp pro-iranien. Et de l'autre côté, on avait Abadi et Sadr, avec bien évidemment le soutien du Parti communiste irakien, paradoxalement, qui symbolisait le camp pro-américain. Mais avec le déclenchement de ce mouvement social, les cartes sont rebattues, les rapports de force déstabilisés, les camps défaits. La première force politique qui a demandé à Abadi de ne pas se représenter pour le poste de Premier ministre, c'était Muqtada Sadr. Et du coup, tout ce qu'on disait comme construction politique sur les pro-iraniens et les pro-américains sont tombés, vraiment. Pourquoi ? Parce que Hamdi et Sadr ont fait une alliance pour constituer un gouvernement fort, autrement dit, pour rentrer encore une fois dans ce que j'ai appelé auparavant la libanisation de l'Irak. Autrement dit, un premier ministre chiite, un président kurde et un président de l'Assemblée nationale sunnite.
Et alors, pour le lien, ou plutôt pour l'impact avec la crise de Bassora, donc mettons qu'on ait effectivement cet exécutif et ces institutions, donc je disais plus franchement pro-Iran, est-ce que c'est pas à double tranchant en un sens ? Peut-être juste un mot sur Bassora, en quoi c'est un symbole selon vous, un chômage de 30%, une région très riche en pétrole et zéro revenu, un peu un symbole de la déshérence des provinces d'Irak face à Bagdad ?
Depuis le 16 octobre 2017, c'est-à-dire la reprise de Kirkuk par les milices chiites, l'État irakien ne peut plus exporter le pétrole de Kirkuk, et donc c'est Bassora qui fournit à 95% l'exportation de pétrole de l'Irak vers l'étranger, autrement dit à peu près à 95% des ressources de l'État irakien vient de cette ville, et pourtant cette ville est la ville la plus pauvre de l'Irak. L'électricité, lorsque le degré de température arrive à 53%, il n'y a que 3 heures d'électricité par jour. Le chômage, vous avez mentionné, mais on peut arriver parmi la jeunesse, bien évidemment, à 57% de la jeunesse de la ville au chômage. On parle même des services publics inexistants. L'État, Bassora, socialement parlant, est livrée à elle-même.
Et sans...
à l'échelle sociale, pardonnez-moi, mais il y a une autre échelle beaucoup plus importante. Bassora, depuis 2003, souhaitait se reconstruire sur le modèle du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan.
Bassora, avec une autonomie.
Il y a une élite politique chiite à Bassora qui demande à une entité fédérée comme le Kurdistan irakien. Cette demande a été radicalement refusée, rejetée par les élites de Bagdad, et ils ne veulent absolument pas entendre cette demande. Et donc, il y a bien évidemment la dimension sociale, mais il ne faut jamais oublier cette dimension politique. Et Bassora, malgré Bagdad, a pu, comme GRK, mettre en place ses propres relations internationales, ses propres relations régionales, avoir son autonomie du fait. Les élites de Bassora demandent une reconnaissance de cette autonomie du fait.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue politique, encore une fois, puisque précisément, on a vu dans ces manifestations, je disais l'Iran très mal perçu, le consulat brûlé, les manifestants qui disaient Iran dehors, mais pour une raison précise, c'est que l'Iran a une influence sur les coupures d'électricité et en même temps sur la salinité des eaux, puisque c'est en retenant l'eau des fleuves en amont que la salinité a beaucoup augmenté, 35 000 empoisonnements à Bassora quand même.
Oui, non, mais bien sûr, mais tout ça c'est des résultats. Mais bien évidemment, le groupe qui a incendié le consulat iranien à Bassora, il ne parlait pas au nom de tous les manifestants. Il ne représentait pas l'intégralité. Il n'y a pas une intégralité. Il y a des forces politiques, il y a des acteurs politiques avec chacun leur base sociale qui manipulent ces manifestations. Bien évidemment, il y a des conditions objectives, sociales, dégradées, qui ont préparé ces grandes manifestations. Ça, c'est indiscutable. Mais en même temps, l'organisation de l'attaque contre le consulat iranien ou contre le consulat américain qui n'a pas eu lieu, c'est des acteurs politiques derrière ces attaques. Sinon, les manifestants ont rejeté en bloc l'incendie, l'attaque contre le consulat américain ou l'incendie du consulat iranien. Pourquoi tout simplement? Parce que l'Iran, depuis plusieurs années, travaille la société du Basra. Les Basraouis, comme on dit en arabe, ont des liens stratégiques avec la République islamique de l'Iran. Au moment où l'État irakien n'a pas pu fournir l'électricité à la ville, c'est cette entité politique de la ville qui a mis en place des contrats avec la République islamique de l'Iran pour fournir l'électricité. Et l'État irakien n'a pas pu verser les sommes qui devaient à la République islamique de l'Iran depuis plusieurs années.
Et c'est en effet ce qu'a dit la République islamique d'Iran pour justifier les coupures d'électricité. En tout cas, première pierre, on le voit bien. Merci beaucoup Adel Bakawan pour aujourd'hui. Je le rappelle, sociologue, chercheur associé à l'IFRI et EHESS.